Et effectivement, il y a plein de souvenirs, puisque quand j'étais pasteur à l'église Néo-Bassan, donc c'était une belle période. Aujourd'hui, je suis encore pasteur à 20% à l'église du Plein Évangile de Malraix et à 80% comme théologien, enseignant à la start-up pour la revue OCMA, à la faculté Jean Calvin et puis aussi à Accro, ce nouveau lieu de formation. Les évolutions de ministère, elles sont toujours intéressantes parce qu'avec Dieu, ben, ça change de temps à autre, quoi. Je suis content d'être théologien, enseignant aujourd'hui, plus que pasteur. Pasteur, faut régler plein de choses, puis j'en avais, je dois dire, un petit peu marre. Donc quand j'étais jeune pasteur, j'étais avec des personnes âgées dans les églises où j'étais. Et maintenant, je deviens un pasteur pas forcément âgé, mais je suis avec plein de jeunes toute la semaine et toute la journée. Mais ce matin, j'ai comme thème du message « Persévère jusqu'au bout ». Et on va lire ensemble dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 1 jusqu'à 13. « Je t'en conjure devant Dieu » et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos parole. On va s'arrêter là. Tout à l'heure, on discutait de la course. Vous savez, lors d'une course, certains athlètes commencent vraiment très vite, mais ils ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Et c'est dommage. Il vaut mieux commencer un peu moins vite et persévérer jusqu'à la fin. Et Paul, qui écrit cette lettre à Timothée, Paul approche de la fin de sa vie, il le sait. Il approche de la fin de sa vie. Il va bientôt terminer sa course et il se réjouit de rencontrer son Dieu. Et on a ici les paroles d'un vieil apôtre qui s'apprête à rencontrer Dieu et un vieil apôtre qui fait une sorte de testament à son fils spirituel, Timothée. Il lui dit les choses les plus importantes. Si vous savez que vous arrivez à la fin de votre vie, vous n'en avez plus pour très longtemps, eh bien, ce que vous allez laisser au suivant, ce sont les choses les plus importantes. Vous ne parlez pas de futilité à ce moment-là. Vous allez directement à l'essentiel. Et c'est ce que Paul fait avec Timothée. Maintenant, Paul est en prison. Ce n'est pas une situation très facile, hein. Ce n'est pas une retraite bien dorée, à Verbier, avec des belles montagnes bien enneigées. Il est en prison, il écrit à Timothée, il est à la fin de sa vie, il est malade, mais il se réjouit de rencontrer son Dieu et il peut dire, j'ai combattu le bon combat, la couronne de justice m'est réservée. Au fond, c'est le principal, hein. Mais il veut, Paul, donner un dernier message à Timothée pour encourager Timothée. Alors, vous savez, on va dire deux, trois choses sur Timothée. Timothée, il rencontre des problèmes dans le cadre de son ministère. C'est très difficile. Il est jeune, mais peut-être pas tant que ça. On pense que Timothée a à peu près 40 ans, donc c'est plus si jeune que ça. On ne sait pas exactement, mais ce n'est pas un gamin de... Enfin, je veux dire de 12 ans, quoi. J'allais dire une bêtise. Non, c'est quelqu'un qui a quand même déjà une bonne assise dans le ministère, qui porte du fruit, qui a la tête d'une église, qui marche bien quand même, et qui a de l'expérience. Mais il est encore jeune. Mais Timothée traverse une période extrêmement difficile dans son église à Éphèse. Et pourquoi ? Parce que dans son église, chez Timothée, il y en a plusieurs qui abandonnent la foi. Et ça, c'est un peu embêtant. Quand vous êtes pasteur d'une église, puis que certains se convertissent, puis renient tout à un moment donné. Ça, c'est une partie des choses. Mais il y a une autre chose qui est très gênante pour Timothée, c'est qu'Éphèse, et ça, on peut le lire dans Actes au chapitre 19, eh bien, Éphèse, c'est la ville où on construit ces petites statues d'Artémis. Et il y a des marchands, des menuisiers ou des orfèvres qui construisent ces statues et qui les vendent et qui se font plein d'argent avec ça. Et on va à Éphèse. Déjà, Éphèse, c'était une grande ville culturelle, architecturale, imposante, intéressante. Il y a des spectacles, il y a plein de choses. On dit qu'à Éphèse, il y a un amphithéâtre qui pouvait contenir jusqu'à 20 000 personnes pour suivre des pièces de théâtre. Donc, on y vient à Éphèse. Comment on va à Berne, comment on va bon, à la Neuville moins, il n'y a pas 20 000 personnes qui pourraient arriver là. Mais on va à Éphèse parce que c'est une ville culturelle. J'ai vu un spectacle à Éphèse. Et il y a ces vendeurs de statuettes d'Artémis. On achète ces statuettes, on les met dans son salon, puis on les adore, puis on espère que tout ira bien si on adore ces statues. Oh ben, jusque-là, bon, ok. Le problème, c'est qu'il y a des membres de l'église d'Éphèse, où Timothée est pasteur, qui viennent avec ces statuettes dans l'église. Hein? Comme si ce matin, pendant la louange, vous auriez eu une personne qui arrive. « Ah ouais, ben, écoutez, c'est bien de louer le Seigneur, mais moi, j'ai une statue d'Artémis. On pourrait aussi adorer ça. » Donc, vous comprenez que Timothée, qui veut diriger son église selon la parole de Dieu, avec ces personnes qui amènent ces statuettes dans l'église, c'est un peu embêtant. Donc, un espèce de doux mélange, des gens qui contestent Timothée dans son autorité de pasteur, des gens qui abandonnent, et une pression de la part de ceux qui vendent ces statuettes, qui disent « Oui, mais ce Timothée, il nous embête, parce qu'à cause de lui, on vend un petit peu moins de ces statuettes, et puis on gagne un petit peu moins d'argent. » Donc, il nous embête vraiment, ce Timothée. Et voilà qu'à un moment donné, Timothée, il est prêt à jeter l'éponge. « Oh, pasteur, ça ne me va pas, j'en ai marre. Je vais jeter l'éponge, qu'un autre conduise cette église. » Et Paul ressent les choses. Paul est apôtre, il connaît Timothée, il connaît cette église d'Éphèse. Paul ressent les choses et puis, avant que Timothée ne commette, au fond, une erreur, en laissant les choses, eh bien, Paul vient l'encourager. Et Paul lui dit, mais tu sais, versets 3 et 4, tu sais, Timothée, dans les derniers temps, tu ne dois pas être étonné, beaucoup détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Mais c'est ça. Les derniers temps. On est plus aujourd'hui dans les derniers temps que quand Paul a dit ça à Timothée. Et pourtant, Paul dit, les derniers temps, ben, ils ont commencé à partir de la mort de Jésus, sa résurrection et de l'envoi du Saint-Esprit. On est dans ces derniers temps, mais plus on avance, plus on est dans les derniers temps. Et Paul prévient Timothée, mais dans les derniers temps, tu ne dois pas être étonné, hein. Il y a des gens qui se détourneront l'oreille de la vérité, elles se tourneront vers des fables. Oui, mais toi, Paul, ça c'est moi qui l'invente, mais toi, t'es le grand Paul, t'es le grand apôtre, tu as réussi à passer par toutes les épreuves. Mais Paul continue. Paul dit, mais écoute, Timothée, Démas, c'est un chrétien ou un ancien chrétien. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas a abandonné Paul. Il l'a abandonné pour le siècle présent. Est-ce que Démas est retourné acheter une statuette et l'a mise dans son salon pour l'adorer, à la place d'adorer le Seigneur? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Et puis, Crescence est allé en Galatie. Et puis, Tite en Dalmatie. Mais Tite, bon, c'est un serviteur de Dieu. Mais toujours est-il qu'il n'est plus avec Paul, puisque Dieu l'appelle ailleurs. Alors, Paul se retrouve bien seul. Il est en prison. Mais d'autres ont quitté Paul, Alexandre, le forgeron. Ça, on le trouve au verset 14 du chapitre 4. Mais Alexandre, lui, non seulement il a quitté Paul, mais il a fait extrêmement beaucoup de mal à Paul. Au fond, est-ce que Paul a eu un ministère facile? Non. Est-ce que Paul a jeté l'éponge? Non. Est-ce qu'il a été tenté de jeter l'éponge? Oui, pratiquement tous les jours, entre la persécution, la prison, ceux qui l'abandonnent et ceux qui lui font vraiment du mal, comme Alexandre, qui lui jette les bâtons dans les roues, eh bien, il aurait eu tout lieu de jeter l'éponge. Mais il ne l'a pas fait. Ici, Timothée, il est à deux doigts. Hein? Si vous lisez clairement le texte, Timothée est à deux doigts de dire « J'en ai marre de ces chrétiens, j'en ai marre de ces églises, j'en ai marre de ces gens qui sont un pied dans le monde et un pied dans l'église, de ces gens qui ont une statue d'Artémis mais qui ont la Bible à côté. » Bon, la Bible n'existait pas sous la forme actuelle, mais on avait quand même l'Ancien Testament, on commençait à avoir une partie des évangiles, il y avait les prédications de Paul, ça commençait à bien circuler, même si la Bible n'était pas complètement formée. Timothée est à un doigt de jeter l'éponge parce que Timothée traverse des difficultés. Vous savez, moi je rencontre beaucoup de responsables d'église, d'anciens, qui me disent « Ah Charles, si tu savais, je reste par fidélité au Seigneur, mais je jetterai bien l'éponge. Et je préférerais aller me promener en forêt que de continuer. » Mais c'est une réaction tellement normale. Moi je vous avoue, hein, c'est entre nous. Hein. Mais souvent j'ai eu cette réaction-là aussi. Seigneur, là, encore une semaine et je jette l'éponge. Et après, débrouille-toi, tu es tout puissant, trouve d'autres personnes. Mais Paul rappelle quand même à Timothée, continue à marcher. Oui, il y a des difficultés. Oui, c'est insupportable. Oui, cette histoire d'Artémis est insupportable. Mais continue. Et pourquoi tu continuerais? Mais rappelle-toi, tu cours, tu marches. Oh, là, tu cours plus, hein, tu marches. Vous savez, courir, quand vous faites 40 km, vous pouvez courir au début, mais à partir du 20e, et à partir du 30e, puis à partir du 35e, courir, c'est fini. Hein. On a des cloques, on a mal partout, on est complètement comme un spaghetti. Et puis on y va, puis il faut bien rentrer à la maison. Hein. Sinon, on peut dormir la nuit, puis repartir le lendemain. Bon, dans quel état est Timothée? J'allais dire, dans quel état est Paul? Il est malade. Hein. Mais va quand même, va jusqu'au bout. Pourquoi? Mais pourquoi tu irais jusqu'au bout? Chapitre 4, toujours. Hein. On est toujours au chapitre 4, le verset 8. Parce que La couronne de justice t'est réservée. Elle t'est réservée, tu marches, tu endures tout. Tu pourrais t'arrêter et tout le monde te comprendrait, mais tu continues parce que tu te réjouis de ce que la couronne t'est réservée. Voilà pourquoi tu marches. La couronne de justice qui te sera donnée le jour du Seigneur, c'est quoi ce fameux jour? C'est le jour où on sera enlevé, le jour où on rencontrera Christ. C'est pas n'importe quel jour. L'Ancien Testament en parle du début à la fin. C'est le plus beau jour qui puisse y exister. C'est quand je rencontrerai Christ. Et quoi qu'il en soit, je le rencontrerai. Que Christ descende dans les airs pour enlever son Église, alors ça, c'est la rencontre parfaite. Ou que je meure d'une mort naturelle ou dans un accident effroyable, à ce moment-là, je rencontre aussi Christ. Et dans les deux cas, le jour du Seigneur, le jour des noces de l'agneau, le plus beau jour, le jour à ne pas louper. Tu cours pour ce jour-là. Tu cours pour remporter la couronne. Et si tu cours jusqu'au bout avec la force que le Seigneur te donne, même si tu boites, hein, vous savez, j'ai une sœur qui marche, elle fait partie d'un club de marche, puis elle marche, elle marche, elle marche. Et chaque été, elle me dit, mais allons faire un bis, allons faire ça. Oui, oui, ça va bien les quatre premières heures, mais la cinquième, elle court comme une gazelle, mais moi, j'ai des entorses partout. Bon, comment est Paul? Comment est Timothée? Paul, il est à la fin. Il a des entorses partout. Timothée, il n'est pas à la fin, de loin pas, mais il a des entorses partout, dans le cœur. Mais Paul l'encourage. Continue, vas-y. Le jour du Seigneur est proche. C'est le plus beau des jours. Parce que là, eh bien, tu vas recevoir une belle couronne, hein. Vous savez, les Romains aimaient énormément les courses. Moi, j'ai pensé que c'était quand les chrétiens se faisaient manger par les lions, les Romains aimaient ça dans les grandes arènes. Oui, c'est quelque chose que les gens aimaient. Mais il y a quelque chose que les gens aimaient bien, mieux. Vous savez, voir quelqu'un être déchiqueté. Enfin, je ne sais pas si ma femme, même romaine, aurait apprécié ça. Mais par contre, ce que les Romains aimaient par-dessus tout, c'était les courses. 40 kilomètres, 100 kilomètres, on courait les marathons. Et les gens étaient passionnés pour le marathon, passionnés par ça. Et on courait, et il y en a... Mais Paul utilise cette image du marathon. Tu fais un marathon, mais il n'y en a qu'un seul qui gagne. Et celui qui fait le marathon, et qui est mort après le marathon, ben, il reçoit une couronne. Mais une couronne, vous la mettez sur la tête, vous vous sentez bien un moment, et puis le lendemain, elle est fanée. Alors que celui qui court pour le Seigneur reçoit une couronne qui, elle, est incorruptible. Il y a une belle différence entre celui qui reçoit une couronne en faisant un marathon et celui qui reçoit la couronne de vie, qui, elle, est incorruptible. Ça, c'est déjà la première des grandes différences. Mais dans un marathon, il y en a un seul qui gagne la couronne. Avec Christ, c'est tous ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Ils la reçoivent tous. Hein? Donc ici, on est, je ne sais pas, mettons 50 ou 60. Si vous marchez tous, il y aura une couronne pour chacun d'entre vous. Même celui qui arrive avec plus de jambes. Alors, Paul va juste dire, et je terminerai par ça, trois conseils à Timothée. Trois conseils. Au verset 6, donne-toi entièrement à Dieu. Au fond, quand tu marches, si tu as si tu as un sac avec 36 idoles d'Artémis dans ton sac, ben c'est lourd. Hein? Donc, il faut que tu sois entièrement à Dieu. Là, ça sera beaucoup plus simple. Si ta vie est partagée, ben, ça sera compliqué finalement. Tu auras un pied là, un pied là, un pied là, un pied là. Donc laisse ton sac. S'il y a les idoles d'Artémis dedans, ben, laisse-les sur le côté, tu marcheras plus vite. Or, je ne dis pas que Timothée avait les idoles d'Artémis, mais tellement de soucis, tellement de poids. foi, tellement de choses. Et Paul donne ce conseil à Timothée, mais donne-toi entièrement à Dieu. Et puis, la deuxième chose, ben, cours fidèlement jusqu'au bout, au verset 7, cours. Ouais, mais je ne peux plus trop courir. Ben, alors marche, mais marche jusqu'au bout. Et marcher, c'est poser un pas après l'autre. Hein? Ce n'est pas très compliqué. C'est se lever le dimanche matin pour venir à l'église, comme vous l'avez fait, quoi. C'est ouvrir la Bible le matin avant d'aller au boulot en buvant son café, quoi. Hein? Ce n'est pas très compliqué, mais ça, c'est poser un pied. Je pose un pied quand je lis un verset biblique. Je pose un autre pied quand je lis encore un verset biblique. Je pose un troisième pied quand je vais à l'église. Je pose un quatrième pied quand je prends mon téléphone et puis que je discute avec un enfant de Dieu. Je pose un cinquième pied quand je fais une petite prière. Mais à chaque fois que tu fais ces pas-là, hein, ces pieds-là, ben, tu marches, puis tu t'avances vers le but. Et à un moment, ben, tu arrives au but. Hein. Ah, la plus belle chose, c'est quand on arrive au but. Mais on n'y est pas encore, alors on continue à marcher. Et puis marcher, ben, c'est un pas après l'autre. Vous savez, à l'école biblique, moi j'aime énormément ces élèves, hein, c'est mes bébés à quelque part. Ben, ils arrivent au début avec des grands rêves de service, d'études, de master, de trucs. Bon, ben, fais déjà ton devoir de bibliologie, puis d'herméneutique, puis après on verra plus loin. Et puis commence déjà à préparer ta première prédication. Et une bonne prédication textuelle centrée sur le texte, puis apporte-la, puis après on regardera un peu plus loin. Mais voilà, un pas après l'autre, un pas après l'autre. C'est ce que Paul conseille à Timothée. Et puis le troisième conseil, ben, persévère. Mais c'est assez facile de persévérer, parce que le Seigneur nous aide à le faire. La couronne de justice t'est réservée. Quand tu baisses dans ta garde, ben rappelle-toi que cette couronne t'est réservée. Et Paul se donne en exemple, mais il a le droit de le faire. Hein. Et il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, cette couronne m'est réservée. Il y a encore une dernière chose que j'aimerais dire. On a l'impression, en lisant ces textes, que Timothée est profondément seul. Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que Paul va dire ? Paul, c'est un grand pédagogue. Qu'est-ce que Paul va lui dire ? Mais dis donc, Timothée, tu as l'impression de tirer un chariot. Un chariot avec 3000 stères de bois, tu te fatigues, mais tu n'es pas seul. Qu'est-ce que Paul va dire à Timothée ? Il va faire toute une liste de ceux qui marchent, qui n'ont pas abandonné et qui continuent. Et à travers cette liste, c'est comme si Paul dit à Timothée, mais regarde tous ceux qui marchent à côté de toi. Joins-toi à eux, mets-les dans le conseil de l'Église ou dans, je ne sais pas, le groupe louange, tu n'es pas seul. Luc est avec moi, il est avec Paul, Luc. Dieu prend soin de Paul à la fin de sa vie, Luc était médecin. Et Luc est historien, et Luc est l'écrivain de son évangile de Luc, et Luc a écrit les Actes. Mais qu'est-ce que c'est bon pour Paul de savoir que Luc, en tant que médecin, puisqu'il est malade, Paul, Luc s'occupe de lui à la fin de sa vie. Dieu ne laisse pas ses serviteurs, même malade, même en prison. Mais toi, Timothée, n'as peut-être pas besoin de Luc, le médecin. Il est avec moi. Mais je souffre dans ma santé et j'ai un médecin. Mais toi, Timothée, bien, prends Marc. Prends Marc, il te sera utile dans le ministère. Lui, il est net. C'est pas... Prends Marc. Mais j'ai aussi envoyé Tychique. Tychique, c'est qui ? Vous le connaissez ? Enfin, il vient pas de Malraix, hein, où j'ai passé mon enfance. Tychique, ça me dit rien. C'est la seule fois on a ce mot dans la Bible, mais Tychique, c'est un chic frère que Paul recommande et que Paul envoie pour aider Timothée. Tychique, écoute, tu vois, Timothée, il baisse la garde là. Timothée, il déprime, hein. Il se lève le lundi et puis il va au boulot avec la tête en bas, quoi. Tychique, il faut que tu ailles tout de suite à Éphèse. Vas-y, prends ton cheval. Prends ton cheval le plus rapide, là. Celui qui fait du 150 à l'heure. Bah. Voilà, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Mais pas pour aller se promener, pas pour aller au cinéma. Hein. Mais j'ai envoyé Tychique pour t'aider. Et puis, oh là là. Et puis, Trophime. Mais il est malade, il est à Milet. Mais rappelle-toi de sa foi, il a tenu le coup. Et puis aussi Loïs. Mais qui est cette Loïs? Ben, c'est sa grand-mère. Dis donc, Timothée, si ta grand-mère te voyait, elle te tirerait les oreilles. Hein? Mais Loïs, ta grand-mère, rappelle-toi qu'elle a marché jusqu'au bout. Vous savez, les personnes âgées, moi, elles m'impressionnent, celles qui sont restées fidèles jusqu'au bout. Elles ne parlent pas beaucoup, mais elles sont restées fidèles. Hein? Ouais, dis donc, Timothée, Loïs, ta grand-mère, elle est restée fidèle, fais comme elle. T'as un bon exemple, t'as un exemple pas loin de chez toi. Et puis aussi, sa mère, Eunice, dis donc, elle te refera les bretelles, Eunice. Hein? Mais elles sont décédées toutes les deux, mais... Rappelle-toi leur témoignage. Rappelle-toi qu'elles aussi ont eu leurs difficultés. Rappelle-toi qu'elles aussi ont eu leurs combats. Et rappelle-toi qu'elles sont restées fidèles jusqu'au bout. Et puis d'autres, Eubulus. C'est qui cet Eubulus? Je ne le connais pas. Mais Timothée le connaît. Paul le connaît. Eubulus, il est resté fidèle jusqu'au bout. Et puis Pudence. Regarde ce Pudence, il joue de la guitare à la louange. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Mais il est fidèle, il aime le Seigneur, il chante pour le Seigneur. Pudence. Puis Linus. Linus, lui, joue de la batterie. Il est en plein dans le Seigneur. Et puis Claudia, elle chante. Bon, ça, c'est moi qui... Mais tu n'es pas seul, Timothée. Il y a des gens autour de toi. Alors, donne la main à ces gens. Et ensemble, vous avancerez plus vite. Alors, pourquoi est-ce qu'on marche quand on est découragé? Et vous savez, on peut être découragé hein, par tant de choses. Et je peux imaginer qu'avec tout ce que vous avez vécu, certains parmi vous se disent, bon, maintenant, je jette l'éponge. Hein. Eh bien, on marche avec ceux qui veulent marcher. Et on marche pour obtenir la couronne de la justice. Et j'espère que ce message vous encourage à pas jeter l'éponge. Moi, j'aurais pu le faire je ne sais pas combien de fois. Et puis, tous les pasteurs que je connais également. Mais on n'est pas des surhommes. Et on a besoin de l'encouragement de Paul dans cet épître. Que Dieu vous bénisse.